Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage, à m'adorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le droit redouble d'efforts, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour un beau matin, le ramon allait au turbin, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la Glande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tranquille sous mon arbre à joint, je n'aurai plus qu'à le. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste à vivoter au soleil sans me préoccuper, au soleil sans préoccuper.
Radioactive.
La Touraine a trouvé sa radio.
Peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt. Peut-être que la mer se sera évaporée. Peut-être que on essaiera de changer d'air. Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire.
Peut-être que on a déjà perdu le combat. Peut-être que on aura tous une puce dans le bras. Peut-être que plus personne dira le mot merci. Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie.
Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière. Ça peut pas être la dernière.
Dernière clope pour un dernier souci, un dernier anniversaire pour une dernière bougie, une dernière ensemble, une dernière avec toi, une dernière nouveauté, une dernière première fois.
T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu, c'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure, on n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli, dis-moi qui croire, si même l'espoir croit pas en lui, tout est petit du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge. Je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante.
Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière. Ça peut pas être la dernière.
Pas des os en verre, vous pouvez vous cogner à la vie.
Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même.
Je t'aime, c'est comme un fou, oh, comme une star de cinéma. Et si les autres, ils t'ont laissé tomber, viens plutôt pour sortir avec moi. Y a des toboggans dans mon quartier, tous les deux on s'y laissera glisser. Et puis on mangera des glaces au chocolat.
Tous les deux, on pourra s'entraîner. Mais si je t'aime.
s'aimer pendant des nuits entières. Et pour ça faudrait que tu ailles m'embrasser. Et si tu veux pas, faudra pas venir pleurer.
Quand je serai une star et que je t'aimerai plus. Et si tu t'aimes, c'est comme un fou. Pas comme une star de cinéma. Et si les autres rues t'ont laissé tomber, et allons plutôt pour sortir avec moi.
Vincent, elle est arrivée, Catherine ?
Non, je crois pas.
Mais c'est que son émission va commencer.
T'as essayé de l'appeler ?
Catherine !
J'arrive ! Je reviens d'un spectacle génial.
Alors vas-y, raconte.
Non, je n'en parle que dans mon émission théâtrale, etc.
Et c'est quand, théâtrale, etc. ?
C'est tous les vendredis à 18h15 et rediffusé le samedi à 9h.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive. Radioactive.
Bonjour et bienvenue à tous sur Jeunesse Live, l'émission jeunesse de la semaine. Toujours avec Corentin, Jordan, Ismaël, Marcelo et Thierry.
Et Bérat.
Aujourd'hui, nous allons parler nature avec Thierry Pollier de la Maison de la Loire. Pour vous présenter.
Mais d'abord, je suis très heureux de faire votre connaissance et d'être parmi vous aujourd'hui pour cette grande question de l'eau. Enfin, pour moi, ça sera l'eau de la Loire. Et voilà, pour me présenter rapidement, en fait, je suis Thierry Pollier. Ça va faire 28 ans que je travaille à la Maison de la Loire comme coordinateur. Donc, ça fait trop longtemps. Et donc, depuis 28 ans, en fait, j'essaie, comme mes collègues, de faire au mieux pour éduquer, sensibiliser, informer le public et faire découvrir le fleuve sur toutes ses dimensions, notamment au travers d'expositions, d'une bibliothèque et de quelques ressources que possède la Maison de la Loire, beaucoup d'animations que l'équipe d'animateurs met en œuvre, des conférences, des journées thématiques, et la Maison de la Loire, c'est une association. Donc ça veut dire qu'elle a aussi une vie associative. Voilà, pour faire rapide.
Et quel a été votre parcours jusqu'ici ?
Alors depuis 28 ans, comme je disais, je suis toujours à la Maison de la Loire. Bon, avant, j'ai enseigné au Greta en formation continue. Alors, j'ai un parcours un peu naturaliste, porté un peu sur l'anatomie, l'ostéologie au départ. Voilà ce qui m'a amené en fait indirectement en tant qu'enseignant et puis en tant que, c'est vrai, passionné de nature. Ça m'a amené à la Maison de la Loire au bout de quelques années. J'y suis rentré en 96. Voilà, et c'est vrai que comme beaucoup d'associations, eh bien, il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup à faire aussi, à faire découvrir.
Est-ce que votre métier est difficile ?
Alors, je dirais que quand même, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que les métiers de l'environnement sont des métiers finalement faciles, qu'on ne fout rien. Par exemple, nous, quand je suis arrivé à la Maison de la Loire, beaucoup de gens s'étonnaient de savoir que des salariés pouvaient travailler à la Maison de la Loire. C'était comique de me voir que des gens pensaient qu'on ne pouvait être que des bénévoles, parce qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, ben, Dieu merci, après plus de 20 ans, les métiers d'animation, d'éducation à l'environnement existent, sont nécessaires et sont défendus, je dirais aussi politiquement. Et donc, dans ta question, y a un aspect positif, c'est-à-dire que les choses ont évolué, nos métiers sont importants, mais le côté un petit peu difficile derrière cette reconnaissance, c'est qu'effectivement, éduquer, sensibiliser, ça prend beaucoup de temps, ça demande des moyens, et ça demande aussi une volonté que je qualifierais de volonté politique. C'est comme le patrimoine, c'est comme l'éducation. Donc c'est vrai que nos métiers sont indirectement, enfin en ce qui nous concerne, sont indirectement liés aussi aux partenaires publics. Donc je dirais que les gens se représentent donc métier de l'environnement comme idyllique. On est toujours dans la nature. On regarde, on observe la faune, la flore, etc. Eh bien, c'est pas vrai. Je vais casser le rêve peut-être pour certains d'entre vous. Mais ces métiers-là, c'est faire vivre les associations, défendre ce qu'elles sont, défendre les valeurs et défendre aussi les moyens qu'elles ont à mettre en œuvre. Et c'est peut-être plus difficile que dans certains secteurs, comme le tourisme par exemple. Ai-je répondu ?
Oui, merci.
Bonjour, en quoi porte votre métier plus en détail ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien par exemple ?
Alors, au quotidien, je suis incapable de le dire. Coordonner, coordinateur, c'est faire... D'abord, prendre part un peu à toutes les activités de la Maison de la Loire. Je fais moins d'animation que les autres, mais j'en fais. C'est essayer d'activer les réunions, essayer de suivre aussi les partenariats de l'association. C'est essayer beaucoup de faire du lien entre les administrateurs et les collègues salariés. C'est prendre part un petit peu à tout pour veiller à ce que on essaie de que tout se passe bien. Voilà en deux mots, c'est pas facile parce que les gens imaginent que vous faites rien et que les autres font. C'est pas si facile, c'est être aussi à l'écoute, c'est être aussi, comme on le peut, représenter l'association et les gens qui y travaillent. Alors ça, c'est pas facile du tout. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas être compris. Et c'est, je dirais, pour moi, en tout cas en ce moment, on est en plein dedans, c'est être entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les administrateurs et les salariés. Et c'est pas facile, en fait. Voilà. Mais ça vaut la peine d'être vécu.
Merci, Thierry.
Et est-ce que, quand vous étiez jeune, vous avez pensé à être à l'heure d'aujourd'hui, ici?
Alors d'abord, je suis jeune, déjà pour commencer. Non, je plaisante. J'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans cette année, donc je suis plus jeune. Eh oui. Non, fais pas l'étonner, c'est pas la peine. Donc, non, franchement, non, pas du tout. Quand je suis arrivé à la maison d'Albert, je pensais y rester un an. Et puis, ça dure un peu. Et non, je pensais pas. Je projetais pas, en fait. Je voulais faire autre chose.
J'ai une question. Comment fonctionnent les crues?
Alors, mais c'est une très bonne question. Alors, les crues, en fait, je vais commencer par m'appuyer sur les constats souvent du public. Parce qu'à la Maison de la Loire, on essaie de prendre des idées préconçues, des clichés, des erreurs, en fait, quand on reçoit du public, et puis d'essayer de rétablir un peu, non pas la vérité, mais un cheminement qui va amener à une prise de conscience. Donc, en fait, les crues, bien souvent, les gens pensent que c'est une question de hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une crue de la Loire à partir de tant de centimètres de la montée des eaux. Et encore plus fort, on va dire qu'il y a une inondation quand ça monte de... Non. En fait, la crue, c'est simplement un état du lit de la Loire lié à la montée des eaux, principalement lié à la pluie, à la neige et à la pluie. Donc la crue et la décrue, c'est quand l'eau, le niveau de la ligne d'eau d'un cours d'eau, va descendre. Donc après, comment elles fonctionnent? Elles sont alimentées par les pluies, elles sont alimentées aussi par indirectement la gestion des barrages de Villeray, des barrages. Mais en tout cas, nous, on va surtout s'intéresser alors, à la genèse, comment elles sont liées. C'est souvent lié aux pluies. Alors les grandes crues sont souvent liées aux pluies qu'il y a en Haute-Loire et aussi sur l'ensemble du bassin de la Loire. C'est ce qu'on appelle des crues mixtes, où il y a les deux type d'alimentation de l'eau dans les cours d'eau et donc la Loire. Et donc la neige contribue un peu, mais finalement l'échelle de la Loire, c'est surtout la pluie, les pluies en fait, qui vont provoquer la montée des eaux.
Très bien, merci.
Est-ce qu'en Indre-et-Loire, les nappes phréatiques sont comment? Elles sont pleines, vides?
J'ai envie de dire ça dépend.
Ça dépend
de plein de choses. Moi, je dirais qu'actuellement, c'est vrai qu'on le ressent, les habitants d'une ville s'inquiètent sur les nappes. Ils s'inquiètent sur les nappes parce que ça se dit, ça se répète, et surtout parce qu'on constate effectivement depuis quelques années, quand la Loire est très basse, c'est-à-dire quand les étiages, le niveau des basses eaux est vraiment très très bas, il y a donc tout de suite une inquiétude sur le fait que les nappes manquent d'eau. Et c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les nappes manquent d'eau parce qu'il y a des mécanismes qui amènent cette limitation d'alimentation des nappes. Mais là, dans l'actualité, on parle beaucoup, vous avez entendu, de réchauffement climatique. Hein ? Mais en fait, c'est le dérèglement climatique qu'il faut voir qui est beaucoup plus large. Et dans ce dérèglement climatique, il y a effectivement le fait que les cours d'eau souffrent. Parce que les étiages sont sévères, donc je pense aux poissons, je pense à la biodiversité qu'il y a dans les cours d'eau, ça va souffrir. Mais il y a un souci aussi, c'est les actions humaines. Parce qu'on a quand même des terrains agricoles qui fait que l'eau ne s'infiltre pas, mais circule. Et il y a l'artificialisation des sols. À l'échelle d'une ville, par exemple, Amboise comme d'autres, eh bien on a les parkings, on a l'urbanisation, qui a une croissance assez importante. Eh bien, toutes ces zones-là, où le sol est recouvert, où il est goudronné, où il est artificialisé, c'est un empêchement à la circulation normale. Et en fait, ça répond un peu à ta question. Donc forcément, il y a une incidence sur le remplissage des nappes, alors qu'en fait, une ville peut être complètement inondée rien qu'avec la pluie. Parce que justement, cette eau-là circule et ne s'infiltre pas.
Merci, je vais passer la main à Ismaël.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton métier ?
Tout. Enfin, tout, non, sauf quand on m'enquiquine. Ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, non, je dirais que les espèces sont vraiment... entre la communication, entre l'éducation, je disais un peu l'animation, parce que c'est vrai que c'est important aussi de garder pied avec le terrain et d'être en contact avec le public. Bon, alors, ce qui me gave, en fait, mais je pense que mes collègues, c'est le même cas, c'est que les associations comme les nôtres sont de plus en plus dans un univers administratif, mais plus que ça encore, on doit rendre des comptes. Bon, nous avons, comme d'autres maisons de loi, nous sommes donc financés par de l'argent public, hein, l'État, le conseil régional, le département, et puis, bon, nous, on a la ville de Mont-Louis qui est un partenaire très important. Eh bien, ça, je dirais, ça repose aussi sur des documents, des conventions. Donc, il y a un aspect rédaction administrative, il y a un aspect fournir des bilans, il y a un aspect, en fait, je vais être méchant, mais paperasse, qui est très lourd, qui fait qu'aujourd'hui, les associations qui vivent de l'argent public, franchement, elles doivent beaucoup se justifier. Ça, c'est gavant. Mais je vais tourner ta question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est excitant? Qu'est-ce qui fait vraiment se lever le matin? Et bon, moi, dans mon poste de coordinateur, je dirais que, bon, c'est pas génial, mais il y a ce côté relation avec le public qui est extrêmement important. Quand quelqu'un te dit en face les choses sur lesquelles tu sens que tu peux travailler, tu peux faire un discours d'éducation en disant « Mais non, vous vous trompez, on va vous montrer que ça fonctionne autrement », ça, c'est... Là, je dirais qu'on prend un pied pas possible, quoi.
Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé d'animal marin. Est-ce que vous avez un animal marin préféré?
Un animal marin, oui, bah, j'en ai plein d'animaux marins qui me passionnent. Parce qu'en même temps, je fais de la paléontologie, donc je vais fouiller dans les phalanges, donc les requins, ça me passionne, les mammifères marins, ça me passionne. Enfin, tout ce qui a un squelette me passionne, quoi. Donc, si tu veux, il y a des animaux marins qui sont très importants. Et puis, moi, ce qui me passionne quand même dans les animaux marins, mais comme dans le reste, c'est plutôt ce qui n'est pas très vendeur, quoi. Donc, ce que les gens vont plutôt laisser, parce que c'est petit, parce que c'est important. J'avoue avoir un petit penchant pour tout ce qui est microscopique. Plancton, pour une raison, parce que c'est un monde qui est absolument fabuleux. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet de nous fournir de l'oxygène. Le plancton, les algues du plancton, on parle beaucoup de la flore amazonienne, mais toutes ces espèces d'algues et d'organismes végétaux vont faire de la photosynthèse et vont nous permettre, à nous, gros animaux, marins ou pas, d'avoir de quoi respirer. Et c'est aussi une des bases de la chaîne alimentaire. Donc voilà, tu vois, ta question avait beaucoup de sens, en fait. Donc, les petites bêtes me passionnent, les petites plantes aussi. Et ce qui ne veut pas dire que je néglige les requins, les baleines, etc. Mais j'aime bien qu'on parle de protection quand on prend la globalité des choses.
D'accord, merci. J'ai une question. C'est un peu en lien avec ça, mais est-ce que votre métier est en lien avec les animaux ?
Indirectement, oui, parce que y a une grosse biodiversité sur la Loire et forcément, les animaux, d'abord, sont des indicateurs de l'état de nos milieux naturels. Et puis, ce sont des phares aussi pour le public. Ce sont des espèces, on parle des fois d'espèces phares. C'est pas parce que c'est du showbiz, hein. C'est pas parce qu'il y a un oiseau qui est plus beau qu'un autre qu'on va le mettre en avant, pas du tout. C'est un peu comme ma réponse à la dernière question, c'est-à-dire de faire découvrir aux gens ce qu'ils ne connaissent pas et, on va dire, faire aimer aussi, défendre. C'est ça, protéger. C'est pas seulement dire « ça c'est joli, on aime bien ». Non, non, c'est justement avoir une envie de découvrir et faire découvrir pour permettre aux gens de voir autrement les choses. Donc les animaux, oui, comme les plantes, comme les paysages aussi. Parce que tout ça nous parle, et quand on est sur la Loire, il y a une biodiversité. Mais sur cette biodiversité, intimement liée, il y a des éléments naturels que sont l'eau, le sable, et surtout les paysages qui évoluent. Donc ça, eh ben, il faut savoir s'y intéresser, le lire, essayer de le comprendre, et de le faire comprendre.
à quoi consiste la Maison de la Loire ?
Alors, la Maison de la Loire, c'est une association qui est basée à Montlouis-sur-Loire. C'est la Maison de la Loire dite d'Indre-et-Loire, parce qu'elle représente un département. Et c'est un bâtiment que nous met à disposition la municipalité de Montlouis. Et donc la Maison de la Loire, elle donc accueille un public dans le cadre de ce que l'on appelle un centre de ressources, avec une bibliothèque. Elle est aussi pas mal représentée dans des réunions, des groupes de travaux. Elle apporte son savoir, en fait. Et puis il y a les expositions permanentes et temporaires. Chaque trimestre, il y a une nouvelle exposition temporaire. Il y a des conférences et il y a des journées à thème, comme par exemple notre journée porte ouverte. Et avec cela, le gros du travail, c'est quand même de faire des sorties découvertes, de faire des ateliers en salle sur différents thèmes pour les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi pour les familles. On a un programme semestriel où il y a des animations dans lesquelles tout le monde peut s'inscrire, participer.
Très bien, merci.
Est-ce que vous avez besoin de patience pour exercer ce métier ?
Déjà, il faut que je sois patient avec moi-même, déjà. Et en même temps, je sais pas, oui, il faut de la... Oui, il faut une patience, oui, je dirais. Oui, aujourd'hui, il m'en a fallu, par exemple. Ouais. Mais bon, okay. C'est presque tout le temps. Mais il faut de la patience, mais je pense qu'il faut de la conviction. La patience, c'est la sœur de la conviction, mais je pense que la conviction, c'est important. D'avoir de la volonté et d'avoir... Je ne voudrais pas ce que dire, une certaine passion. Quand on est passionné, enfin, quand on essaie de mettre du cœur, en tout cas, à une tâche, moi, quand j'étais gamin en classe et que j'écoutais pas, j'avais un prof qui me disait toujours, c'est pas pour vous donner les leçons, hein, mais qui me disait, tu t'ennuies à mon cours ? Enfin, je leur répondais oui. Et il me disait, écoute, il n'y a qu'une solution pour ne pas t'ennuyer, c'est participer. Tu verras le temps passer plus vite. Donc la Maison de la Loire, c'est pas ça, hein. Mais néanmoins, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut mettre un peu de sa conviction. Parce que ça... Alors ça, c'est autre chose et ça permet aussi de mieux communiquer avec les gens. Moi, j'aime pas les gens pas passionnés.
J'ai une question. Avez-vous des enfants ?
Oui.
Combien ?
Deux.
Quel âge ? Carte d'identité ?
Je les ai pas sur moi. Ça dit, ils sont grands, mes enfants.
J'ai une autre question.
Non, faut pas, je te sens gêné, faut pas être gêné, il n'y a pas de souci. Hein.
J'ai une autre question. À quel âge vous avez commencé votre métier ?
J'étais un ancien prof de maths, mais j'ai du mal à calculer. En 1996, fais le calcul. Donc, j'ai 60 ans. Allez, 60 ans moins 28, ça fait combien ?
43.
Pas de virgule. J'ai pas de virgule.
Non, 42.
Vous avez dit combien ?
J'ai 60 ans, donc t'enlèves 28 ans.
Ah, 28. Ah, bah du coup, 32.
Voilà. J'avais passé mes 30 ans.
Ah oui. Ok. Bah merci pour votre réponse.
Moi, j'ai une question. Quels sont les risques d'inondation, s'il vous plaît ?
Alors, quels sont les risques d'inondation ? Cette question, elle est très, très large. En fait, moi, j'aurais préféré que tu demandes, y a-t-il des risques d'inondation ? Bien sûr. Parce que on peut avoir, et pour parler de villes comme Tours, Amboise, Lussot, voilà, toute notre linéaire sur la rive gauche et la rive droite, là, notre tronçon de Loire, je dirais, de Loire. Et bien évidemment, pas moi, évidemment, mais l'homme a connu les grandes inondations où il y avait de l'eau sur la route, hein, donc ça c'est important. Et la grande question derrière ça, c'est. Quand tu dis, y a-t-il des risques d'inondation ? Mais c'est, est-ce que ça peut revenir ou pas ? Alors, bien sûr que ça peut revenir. Et ça va revenir. Et vous avez toutes les chances. Désolé de mettre un peu de désordre dans votre. Vous avez toutes les chances de le vivre ou de le voir vivre. Parce que les crues dites parce que. Les crues dites
fac de médecine, fac de sciences pour demander des microscopes. Enfin voilà, on a fait d'une pierre plusieurs coups, on a équipé de laboratoires, on a acquis des connaissances sur ces diatomées, on a même fait des prélèvements pour faire des photos, on a même été à la fac de médecine, utiliser des microscopes électroniques. Enfin voilà, on a pris, on s'est éclaté. Bon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a abouti à la réalisation d'une animation. Et en fait, c'est là où je vais répondre à ta question, c'est que nous avions avec nous une professeure de biologie à l'université de Tours qui nous avait aidé à identifier les algues que l'on avait photographiées. Et c'était pas gagné. On est arrivé à ça, et je n'oublierai jamais, parce qu'elle me dit, au moment où on la remercie, elle nous dit, écoutez, moi,
pour la peine, vous allez m'offrir une sortie en bord de Loire, parce que j'aimerais bien voir les oiseaux, etc. Et là, j'ai mon collègue Eric qui sort, qui fait l'animation avec cette dame, et son mari était présent. Et il se trouve que son mari, c'est un professeur, c'était aussi lui un professeur de l'université de Tours, spécialiste des fourmis. Eh bien, durant la sortie en animation, eh bien, en allant dans le sable de la Loire, eh bien, elle a découvert une espèce de fourmi, la Cardiocondyla elegans, une petite fourmi qui présente une très grande adaptation au sable et à la Loire, parce qu'elle vit dans un nid qui est hermétique durant les crues. Donc cette espèce-là, c'est une espèce de plus qui vient montrer un petit peu l'adaptation des espèces de la Loire. Et donc, du coup, après cette sortie-là, eh bien, il a mis des étudiants à étudier, pour étudier cette fourmi. Pendant des années, on a eu des étudiants face à la Maison de la Loire qui étudiaient donc cette fourmi. Pour vous dire que, sans cette animation sur le plancton, la femme de ce monsieur ne serait pas venue à la Maison de la Loire, elle n'aurait pas demandé une sortie, on n'aurait pas fait cette sortie. Et donc, le professeur spécialiste des fourmis n'aurait peut-être pas, tout de suite, découvert que cette fourmi était en Loire. Ce qui m'amène à vous dire que cette anecdote-là, tout le monde s'en fout, en fait. Néanmoins, de s'intéresser à quelque chose, ça amène toujours à trouver des vérités, à trouver des connaissances.
Okay. Alors, bonjour, je m'incruste très rapidement. Moi, c'est Marcelo. Okay. Et par rapport à la question de Corentin tout à l'heure, vous avez parlé d'un premier projet. Qu'est-ce que ça a été?
C'est secret.
Ah, d'accord.
Non, j'étais un agent du KGB, en fait. Non, c'était un projet qui était plus lié à l'anatomie, l'ostéologie animale, en archéologie. Mais j'ai pas passé mon diplôme et bon, là, du coup, j'ai donc enseigné pendant 5 ans au Greta, en fait, en formation continue. Mais ça m'a donné envie, justement, de vulgariser, d'éduquer, de porter un peu des informations à la connaissance. Donc ça m'a aidé. Mais le premier projet, bah, j'y reviens de temps en temps, je continue, mais bénévolement. En tout cas, j'aurais voulu en faire un métier, mais ça n'a pas été possible. Et donc, voilà.
J'ai une question. Avez-vous des origines?
Des origines? Ah oui, t'as raison. T'as posé une bonne question, en fait. Je suis... à moitié corse. Eh oui, Poli, c'est pas italien, t'as raison. Poli, c'est pas italien, c'est corse. Et je le revendique, sans être un nationaliste, parce que je suis issu, pour la moitié de ma famille, d'une vraie famille corse, originaire de Corte et Ajaccio, avec des caractères bien trempés, et je vais pas raconter ma vie, mais avec des ancêtres qui étaient vraiment des corses, quoi. Je veux dire, des gens de la Corse. Et j'ai honte. Je ne suis jamais allé en Corse. Et tout le monde me tanne avec ça en me disant, mais c'est pas possible. Mais par contre, j'oserais dire que j'ai bien le caractère de la famille. susceptible. Pas facile à vivre. Un peu de caractère. Mais beaucoup de cœur, je pense, sans vouloir me vanter. Et donc, oui, j'ai des origines corse. Malheureusement, j'ai souffert de ne pas avoir eu d'affection de cette famille-là. Je le dis parce que mon père a vécu la même chose. Et voilà, c'est une grande famille. Et dans cette grande famille, bah, malheureusement, il y a des exemplaires comme nous qui n'ont pas bénéficié de l'attention qu'ils auraient peut-être mérité. Mais j'ai beaucoup entendu parler de la Corse, j'en entends encore parler. Alors, il y a des clichés, hein, faut en prendre et en laisser. Hein, mais il y a des choses vraies. C'est assez intéressant. Donc oui, effectivement, c'est dans mon sang, des origines corses, quoi. Et puis, bien sûr, des origines tourangelles, hein, parce que je suis né à Tours, quand même. Hein.
Et vous parlez corse?
Absolument pas. Absolument pas.
Oui.
Mes enfants, mon papa m'avait appris quelques mots, mais par contre, mon papa, avant sa mort, avait donné un petit dictionnaire de gros mots corses à mes enfants. J'étais très jaloux, parce que moi, je ne l'ai jamais eu. Il y avait quelques petits mots comme ça, évidemment c'était sous l'angle de la plaisanterie. Et c'était assez rigolo, mais je connais quelques mots évidemment, parce que bon, mais je ne parle pas corse.
Est-ce que tu as des questions avant qu'on clôture ou non?
Non, j'ai pas de questions. Je dirais ceci, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec vous, merci, à recevoir vos questions. Et je dirais, j'ai pas envie de donner des leçons, mais cette initiative est très importante. Continuez. Pourquoi ? Parce que quand on veut protéger l'environnement, quand on veut protéger le patrimoine, je dirais l'important, déjà, si les gens ne sont pas d'accord entre eux sur la protection, qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est ceci, c'est cela, l'important c'est toujours d'être en capacité de se concerter et d'affronter des idées sans s'affronter. L'affrontement, ça ne veut pas dire se taper dessus, ça veut dire que nos idées se tapent dessus pour faire en sorte que il émerge quelque chose. Mais débattre aujourd'hui, c'est important. Là, je pense que... Alors, ça se fait par les médias, mais ça peut se faire aussi sainement dans une réunion. Donc, avoir la capacité de confronter les idées, les avis, avec les règles du débat, c'est hyper important. Donc, merci.
Merci à tous. C'était Ismaël, Corentin, Jordan et Berat et Thierry de la thématique réflexe éco-geste. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Radioactive.
Radioactive.
Oh, liberté, ma belle. Dans l'évier, comme une miette, t'es mélangée à la vaisselle.
La vie en cœur, tu me tends les bras et j'attends
que ma mère n'ait plus peur, que je la contamine en rentrant.
Oh liberté, oh mon ange, tu t'effiloches de mes chaussettes,
tu me grattes, tu me démanges, on a pris les semelles sous mes baskets.
Oh liberté, ma belle.
Comme une miette, t'es mélangée à la vaisselle, entre les couteaux et les fourchettes.
Pour t'approcher, je me dois rebelle.
C'est un vrai casse-tête, tu sens mauvais sous les ailes, tu n'es plus dans ton assiette.
La vie en cœur, tu me tends les bras et j'attends
que le monde n'ait plus peur du moindre mouvement.
Oh mon amour en cachette, je tends l'oreille pour t'entendre
lancer des cailloux à ma fenêtre.
On a fermé les volets de ma chambre.
Oh liberté, ma belle. Dans les vies comme une miette, t'es mélangée à la vaisselle, entre les couteaux et les fourchettes.
Pour t'approcher, je me dois rebelle.
C'est un vrai casse-tête, tu sens mauvais sous les ailes, tu n'es plus dans ton assiette.
Et ma sœur, je te regarde dans ma tablette.
Tu m'attires, tu me fais rêveur, mais tu m'es étrangère et muette.
Alors à 16 ans, la bouche en cœur, les bras ballants, bah j'attends la livraison de mon ordinateur.
J'ai bien trop peur de croiser des gens.
Oh liberté, ma belle.
Dans l'évier comme une miette, t'es mélangée à la vaisselle, entre les couteaux et les fourchettes.
Pour t'approcher, je me dois rebelle.
C'est un vrai casse-tête, tu sens mauvais sous les ailes, tu n'es plus dans ton assiette.
Oh liberté, mon avatar, toute seule devant ton miroir, dans une pirouette, tu te balances d'un pas chassé dans l'histoire.
J'aimerais t'inviter pour une danse,
mais leur voix résonne dans ma tête, elle est dangereuse, sans assurance, va donc te libérer sur internet.
Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine. Radioactive, radioactive.
Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette octave,
et moi à cette octave.
Je chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes.
Avec moi.
Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir.
Je joue du synthé pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
Je joue du piano pour toi.
Avec le même son, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins
cons. Pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terme, qui n'est jamais terme.
Been all of you.